Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Lisa, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis vraiment ravie de vous recevoir pour plein de raisons. Pour plein de raisons. D'abord parce que j'admire beaucoup ce que vous avez écrit et réalisé, puisque finalement il y a eu un documentaire sur le sujet, sur l'aspect femme et métier d'avocat.
Oui.
Vous avez écrit plusieurs livres, on va en parler bien sûr, mais jusqu'au plus récent qui s'appelle Nue propriété. Mais sans plus tarder, je vais vous demander, Lisa, si ça ne vous dérange pas, de vous présenter autant d'un point de vue personnel et professionnel en nous disant que ce que vous avez envie de nous dire. Voilà.
C'est marrant parce que donc je suis journaliste et je pose souvent cette question et je me rends compte à quel point elle est difficile.
Ah oui, elle est très dure.
Donc je vais peut-être faire attention maintenant quand je la pose. Donc je suis journaliste, auteur. J'ai réalisé un documentaire, donc je pourrais dire que je suis réalisatrice, mais j'ai un peu du mal à assumer ça.
Moi aussi, il faut l'assumer.
Comme j'ai du mal à dire, je suis écrivain aussi, je maintiens toujours, je suis auteur. Je trouve qu'il y a un truc, on ne peut pas dire soi-même qu'on est écrivain, ça fait bizarre. Je suis née dans le sud de la France. Je pense que c'est pas totalement distinct de qui je suis. Mmh. Je vis à Paris et je suis une fille, une femme, une amie. Voilà, à peu près.
Mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de votre parcours ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes venue à prendre la plume ?
Alors, je pourrais pas vraiment parler d'une vocation. Enfin, je fais pas partie de ces gens qui vous disent, moi, à 11 ans, j'écrivais des nouvelles, etc. Mmh. J'ai toujours un peu écrit. J'ai toujours aimé beaucoup lire, etc. Mais en réalité, j'ai fait des études de droit. Mmh. Quand j'ai eu mon bac, j'ai fait des études de droit à Aix-en-Provence.
Ouais.
Et je voulais être avocate en propriété intellectuelle. Et sauf qu'assez vite, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait plus là-dedans, c'était la propriété intellectuelle que avocate de la propriété intellectuelle. Donc j'étais à l'université en droit et puis je passais mon temps à demander des dérogations pendant que mes collègues, copains, etc. allaient dans chez des notaires, des avocats, des commissaires priseurs, etc. Moi, j'allais à France Culture, au magazine Elle, aux éditions Payot Rivage. Et donc, à un moment donné, il a fallu se rendre à l'évidence que c'était peut-être autre chose que je voulais. Et j'ai écrit un petit peu au Elle quand j'étais stagiaire. J'étais dans une émission de littéraire à France Culture en mm-hmm. stage et je préparais des interviews, etc. Et donc, petit à petit, il m'a semblé quand même assez évident que c'était peut-être ce métier-là que j'avais envie de faire de journaliste. Et j'ai passé les concours d'école de journalisme un peu partout en France.
ESG Lille, donc.
Et j'ai eu, oui, c'est celle que j'ai choisie. Mm-mm. Exactement.
Bah, qui est une des meilleures de réputation.
Oui, je crois qu'il y a des classements, je ne sais pas quoi, chaque année, etc. Et il y a un peu une compétition entre le ESG Lille et le CFJ Paris.
Ouais.
Mais moi, j'ai une théorie sur le fait qu'elle soit numéro 1, c'est que je pense qu'à Lille, on a beaucoup moins de distractions qu'à Paris. Et donc, du coup, on ne fait que bosser. Et en fait, moi, j'ai fait que bosser, quoi. On faisait que ça. Ma vie, c'était aller à l'école. Sur le chemin pour rentrer chez moi, il y avait un cinéma. Et j'allais à l'école. Le soir, j'allais au cinéma, je rentrais chez moi et je recommençais.
Magnifique. Donc, très vite, en fait, vous avez commencé, je crois, donc, au L. Mais il y a eu Marianne aussi.
Oui, non, j'ai commencé, j'écrivais pour le L quand j'étais à l'école de journalisme, je faisais des piges en fait. Ouais. Et puis, quand je suis sortie de l'école, c'était en 2011. Et c'était à la veille de la campagne présidentielle de 2012, et donc je me suis dit, où est-ce que j'ai envie d'aller à ce moment-là? J'ai envie d'aller dans un journal pour qui la politique compte, pour qui la campagne est quelque chose de très important. Et donc j'ai postulé chez Marianne, où je suis entrée, donc en 2011, et j'ai d'abord commencé en étant journaliste politique. Je suivais le centre pendant la campagne présidentielle. Donc, des hommes politiques comme François Bayrou, Hervé Morin et d'autres, quoi. Donc, j'ai fait ça pendant quelques temps. Et puis ensuite, j'ai intégré le service société et je faisais aussi de la culture parce que, voilà, comme je vous le disais, c'est jamais très loin. Et ensuite, au bout de quelques temps, je suis partie et je suis devenue journaliste indépendante. Mmh. J'ai travaillé pour des journaux... Je travaillais beaucoup pour M, le magazine du Monde, pendant un moment. Et
ça Figaro fait aussi, non?
Et ben, ça fait quelques temps que je travaille pour Vanity Fair et le Madame Figaro, qui sont deux publications pour lesquelles j'écris régulièrement et tout le temps, quoi.
Justement, parce que vous avez quand même plusieurs années d'expérience dedans, je me permets une petite digression, mais ça m'intéresse d'avoir votre point de vue sur ce qu'est devenu la presse écrite aujourd'hui. Comment vous le vivez, vous, à travers le prisme de journaliste?
Je ne peux pas nier que c'est un univers qui traverse une crise, quand même. Après, moi, ça fait presque 10 ans que je suis indépendante. Donc, je suis dehors et dedans.
Oui, c'est ça.
Après, moi, j'ai énormément de chance parce que je travaille régulièrement et beaucoup. Mais je vois qu'il y a des choses qui se font moins qu'avant, quoi. Des reportages moins longs, des photos qui sont pas forcément produites. C'est plus difficile. Mais je vois aussi, parce que j'ai renouvelé ma carte de presse là, il y a pas longtemps, que, en fait, on a reçu une sorte de récapitulatif de la commission de la carte. Et je vois qu'il y a quand même encore toujours autant de gens qui veulent être journalistes. Et ça me fait plaisir. Il y a quelque chose de l'instantanéité qui a évolué depuis que je fais ce métier. Mais bon, je pense que par rapport à quelqu'un qui a commencé dans les années 80, j'ai rien à dire.
Quel est le... Alors, vous vous êtes quand même centré sur les portraits. Enfin, ce qui vous intéresse quand même...
Beaucoup.
C'est avant tout l'humain. J'aime pas trop cette phrase, mais c'est quand même ça. C'est avant tout l'humain.
L'âme humaine.
On dirait un entretien d'embauche. Non, c'est pas ça. C'est ce qui vous intéresse avant tout, c'est de mettre en lumière des parcours.
Oui.
Vous l'avez fait aussi... Parlez-moi encore de lui dans un livre.
Exactement.
Je crois que c'était chez Stock, n'est-ce pas?
Oui, c'était mon premier livre chez Stock en 2017.
Oui, parce qu'on a parlé tout de suite du sujet avocat, parce que ça me passionne.
C'est votre tropisme.
Ouais, c'est ça. Mais voilà, et de ce qu'on peut lire à travers vos différents écrits, c'est cette passion pour la mise en lumière de personnages qui les rendent un petit peu universels, finalement. Parce que à travers des portraits... C'est l'avantage du portrait, c'est que les gens peuvent se projeter.
Bien sûr.
Donc, et c'est ça que je trouve intéressant. Comment vous travaillez ça? Comment on sert ça? Comment on alimente le fait d'écrire sur les gens? Il faut beaucoup de psychologie, il faut beaucoup d'écoute, il faut beaucoup de temps.
Alors ça, la psychologie, je ne peux pas moi vous répondre sur la psychologie dont j'arrive à faire preuve ou pas. Très sincèrement, et ce n'est pas de la fausse modestie. En revanche, je crois que... la curiosité, l'écoute, oui, ça paraît être un peu banal aussi, on dirait aussi un peu un entretien d'embauche, comme vous dites, mais toutes les histoires des gens m'intéressent, en fait, leur vie. Les avocates, par exemple, puisque vous en parlez, L'avocat était une femme, qui était un livre que j'ai écrit avec Julia Minkowski. Ce qui m'a intéressée, c'était d'abord de mettre en avant effectivement des femmes avocates, parce qu'on met beaucoup en avant, enfin, ils se mettent aussi beaucoup en avant tout seuls, les ténors du barreau,
avec qu'on appelle
les ténors du barreau avec leurs grosses voix, etc. Ils racontent leur vie dans des livres ce que ne font pas les femmes. Donc c'était, c'était important pour ça de faire ce livre. Mais ce qui m'intéressait, c'est que quand ils racontent ces histoires, ces hommes, ils racontent leur histoire professionnelle comme si, vous savez, c'était une boîte complètement hermétique au reste de leur vie. Il y a leur carrière, leur plaidoirie, etc. Mais finalement, on ne sait pas exactement à quel, dans quel contexte ça s'écrit, ça s'inscrit. Et les femmes, et ce métier d'avocat qui est un métier très prenant, dont on ne ferme, on ferme pas la porte en fait, quand on rentre chez soi, en réalité, il s'inscrit dans un contexte personnel. Voilà, la vie suit son cours. Et ce que j'ai aimé dans ce livre, c'était qu'à chaque fois, remettre en perspective des grandes affaires à des moments clés de leur vie, de ces femmes. Et d'ailleurs, elles en parlent. Et peut-être qu'on devrait pousser les hommes à en parler davantage, poser plus de questions quand on interviewe des hommes sur les incidences que, qu'un univers, l'univers intime, peut avoir sur le professionnel et inversement. Quand je fais là, récemment, j'ai lancé avec Veuve Clicquot un podcast qui s'appelle Bold Voices. C'est, on, j'interview des femmes qui ont, qui ont gagné un prix et le prix, le Bold Woman Award. Et, mais je les interview souvent, ce sont des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des dirigeantes, des anciennes ministres, etc. Et ce qui m'intéresse, c'est de rentrer, d'entrer dans leur vie professionnelle par l'intime. C'est aussi savoir ce qui les a conduits là. Et peut-être que ma question préférée, en réalité, c'est si on remonte aux origines, qu'est-ce qu'on trouve ? Parce que quand même, je crois que de temps en temps...
C'est de là de tout... Enfin, c'est le point de départ.
Bah, un peu.
Non, non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est... Généralement, les femmes ont un petit peu plus de facilité à parler de ça, puisqu'elles sont, comme vous le dites, obligées de mêler tout et que tout enfin, tout est un petit peu interconnecté malgré tout. Enfin, c'est délicat parce que, pour l'avoir vécu, pourquoi j'ai tenu à ce qu'on se rende compte ? Parce que je pense que vous avez, comme moi, pu constater à quel point c'était un secteur... ça évolue, j'espère, mais je ne crois pas que ça évolue si vite que ça, finalement. C'est un secteur qui était masculinisé, enfin très... oui, c'était un univers masculin, initialement. Certaines femmes résistent dans ce secteur et ont résisté pour ouvrir justement la voie à d'autres femmes, tant mieux. Mais de mon vécu, j'ai été vraiment marquée par... moi, c'était il y a longtemps. Hein. C'était comme il y a... Oula, j'ai du mal à le dire, mais c'était il y a presque 20 ans. Non, peut-être pas. On est... Non, c'était il y a 10 ans. Ouais, peut-être pas 20 ans. Mais en tout cas, je trouve que c'est un secteur dans lequel il faut de plus en plus faire parler les femmes. Donc voilà, mon développement est un peu long, mais tout ça pour vous dire que je pense que c'est très important de continuer à le faire.
Alors oui, c'est sûr, mais aussi, moi, ça m'a donné envie de... si vous voulez, d'interviewer, de vraiment creuser des sujets avec, certaines, avec ces femmes, ça m'a aussi donné envie de faire différemment avec les hommes.
Ouais.
Et en fait, maintenant, j'essaye de faire différemment dans mon métier. Je leur pose des questions que peut-être je n'aurais pas osé poser il y a quelque temps. Je leur demande, est-ce que c'est compliqué, en fait, quand on est CEO de... c'est intéressant d'entendre leur, leur point de vue. Est-ce que c'est compliqué quand on est CEO de réussir à mener vie professionnelle et vie personnelle ? Bah, une fois, j'ai posé cette question à un homme devant une assemblée comme ça. Et puis, il s'est arrêté 2 secondes. Il n'était pas du tout choqué. Il s'est arrêté et puis il m'a dit « Ben, je suis passée à côté de beaucoup de choses. Je suis passée à côté de mes enfants, mais je me rattrape avec mes petits-enfants. Donc maintenant, je dis aux hommes, faites attention. Bah, c'est pas inintéressant de savoir ça.
Ah non, mais moi, ça me fout des frissons. Ça me fout des frissons parce qu'en fait, c'est vrai que... Mais c'est très juste ce que vous soulignez. C'est qu'en en posant ces questions-là, peut-être qu'on réveille, on réveille les consciences aussi, quoi. Et que le genre va peut-être un petit peu s'estomper au travail.
Oui, je pense qu'il y a des questions qu'il ne faut plus poser à des femmes. Et il y a des questions qu'il faut poser aux hommes.
C'est vrai.
Et en faisant ça, peut-être qu'on atteindra un équilibre.
C'est très vrai. Non, non, mais c'est très vrai. Et c'est très vrai. Justement, quelles sont les grandes idées ? parce que vous avez quand même...
Oula, grandes idées, ça fait peur.
Non, mais pas grandes idées, mais alors, les grandes leçons, on va dire ça comme ça, ou les grands enseignements que vous avez pu tirer sur vos expériences d'écrivain, pardon, d'auteur, et de réalisatrice sur le secteur des femmes et du droit, ou en tout cas des femmes avocats. Est-ce que vous avez... voilà, si demain... on vous demandait de j'aime pas ça parce que c'est
de résumer.
C'est, ouais, c'est pas grave, mais au moins de nous dire bon bah voilà, je suis arrivée avec cette idée et puis je suis repartie avec une autre, ou peut-être je pensais que et puis finalement je pense différemment. Voilà.
Bah en réalité, moi il y a une chose qui m'a un peu choquée, surprise, c'est que si vous voulez, moi je dans mon métier journaliste, auteur, au fond on a un plafond de verre comme dans tous les autres univers. Y a beaucoup de femmes journalistes. Y en a moins à des postes de responsabilité, comme partout. Mmh. Mais je n'ai jamais été confrontée au fait qu'on me dise « Non, mais ça, tu vois, ça, c'est mieux que ce soit un homme qui le fasse. » C'est très rare, en fait. Dans mon univers, c'est très rare. Mmh. À part peut-être reporter de guerre, et encore aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a aussi des femmes extraordinaires qui font ce métier et qu'on ne le pense pas. Mais dans le métier d'avocat pénaliste notamment, il y a encore toujours cette idée que c'est un métier dur, qui ne doit que du coup, c'est quand même vraiment un métier d'homme. Mmh. Et elles ne se voient pas comme ça. Quand elles enfilent leur robe, elles sont avocates et puis c'est tout. Il y a les grands enseignements, c'est difficile parce que tout le monde, elles sont toutes différentes. Il y a une génération qui ne se rend même pas compte.
Ouais, c'est ça.
Qu'elle a été victime de
c'est ça.
De sexisme, c'est ça. De misogynie, et qui dit oh oui bon voilà, cette génération elle existe.
C'était
la nouvelle
normal.
Génération elle est
non, mais pour nous c'était
à
normal.
L'inverse, elle est très militante.
Ouais.
Et au milieu il y a celle qui essaye de faire le lien et d'opérer la transition et qu'on les regarde comme pour ce qu'elles sont, pour leur talent, pour leur travail. Il y a peut-être une chose, je pense, qu'il faut dire concernant les femmes avocates, c'est que, vous savez, c'est comme partout, en fait. On vous dit, oui, les femmes, la douceur, leur qualité, etc. Bah, en fait, il y a des femmes pénalistes qui sont très, très dures, qui ont le verbe haut. Et il y en a d'autres qui sont très techniciennes, très discrètes, etc. Enfin, il n'y a pas de règle, en fait. Ce qui serait bien, c'est juste d'oublier quel est leur genre. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Si, totalement. Surtout que ça me rappelle beaucoup de choses. Et qu'effectivement, même pour ma génération, je n'ai pas 60 ans, hein, mais je me souviens que pour nous, c'était normal de faire certaines choses qui, aujourd'hui, seraient considérées comme complètement ubuesques. Voilà. Enfin, j'ai en mémoire ma petite expérience. J'aimerais qu'on parle maintenant de... Enfin, j'aime pas passer... Parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, hein, tellement le sujet me passionne, mais voilà. En tout cas, je vous remercie et je salue vraiment ce que vous avez fait. Et j'appelle tout le monde à lire ces portraits et ce que vous avez écrit sur le sujet, parce que, encore une fois, je pense qu'il y a encore du boulot à faire pour les femmes avocats. Il y en a encore beaucoup. Notamment pour les femmes avocats mamans. Aussi, parce que c'est un autre sujet. Et que parfois, elles s'auto-limitent naturellement, en fait. Leur désir d'être associées part un petit peu au moment où elles sont mamans. Enfin bon, voilà. Nue propriété. Alors, c'est votre plus récent ouvrage.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? J'ai pas envie de... voilà, le pitch.
Alors, Nue propriété, donc c'est un roman qui est sorti effectivement récemment, en mai 2022. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se rend dans le sud de la France pour vider la maison de son enfance, en quelque sorte, de la maison de vacances de sa famille, qui appartient à sa famille depuis plus de 3 générations. Elle est la 4e. Et en fait, elle a hérité de cette maison et elle peut pas la garder parce que l'endroit a pris une valeur insensée, parce que elle n'est pas en mesure économique, je dirais, de la garder. Et le fait de se rendre pour la dernière fois dans cet endroit lui fait revisiter ses souvenirs, ses choix de vie, sa famille, son histoire, en fait. Et cette idée d'héritage, de lieu m'intéressait parce que ces lieux de l'enfance, en fait, ils contiennent tout. Ils contiennent qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a vécu, quel enfant on était. Et j'avais envie de parler de cette histoire parce que je pense que, et je m'en suis rendu compte après coup, que c'est le cas de pas mal de gens, de devoir se défaire de ces endroits qui sont émotionnellement très chargés et ce moment où on doit abandonner en quelque sorte ce qui donne l'impression d'abandonner une partie de sa vie. Mais j'avais envie de parler de ça, j'avais envie au départ de faire un livre sur le déclassement, c'est sur cette façon de vivre moins bien que les générations précédentes. Et ça s'est incarné par cette histoire-là.
Alors justement, le déclassement, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce sujet ?
Alors, le déclassement, du coup, j'ai lu quand même pas mal de livres très sérieux, de sociologues sur le thème. Ce qui est assez amusant, c'est que c'est une notion qui est très souvent utilisée par les politiques dans leur discours. Tout le monde en parle. La droite, la gauche, le centre, les extrêmes, tout le monde en parle. Chacun a évidemment son mot à dire sur le sujet. C'est une notion qui fait un peu peur. Donc, c'est aussi pour ça que les extrêmes s'en servent. Ils brandissent ça comme, c'était mieux avant.
Une menace,
tout se perd. Les gens qui ont travaillé toute une vie entière pour finalement ne rien laisser à leur famille, etc. Enfin bon, donc ça, parfois, c'est très exagéré. Mais donc, c'est une notion qui fait peur. Et c'est une notion qui fait tellement peur qu'en réalité... elle est un peu plus crainte que ce qu'elle est effective dans la société. Ça m'a intéressée parce que je pense que de temps en temps, dans les choix de vie qu'on fait et qui nous comblent, hein, c'est pas moi le déclassement dont je parle dans ce livre, c'est une forme de déclassement choisi en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est pas l'impossibilité, c'est pas, si vous voulez, un métier très difficile, très laborieux, qui pourrait être, c'est très
pénible,
politiquement correct de le dire, mais je veux dire, c'est pas des personnages qui deviennent livreurs, délivreux, sauf mon respect pour les livreurs, délivreux, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est des gens qui ont choisi une vocation, et cette vocation, qui par ailleurs les remplit de plein de choses merveilleuses et d'une sorte d'une forme d'accomplissement par ailleurs, ne leur permet pas de maintenir une sorte de niveau de vie économique. Mais ça ne les empêche pas de... ça ne les empêche pas de conquérir d'autres territoires. Il y a un déclassement. Le déclassement, il peut être économique, il peut être social, mais on peut être déclassé économiquement et en même temps intellectuellement plus élevé. Voilà. Et donc, j'avais envie de parler de ça. Et donc, dans Nu Propriété, le personnage vient d'une famille entière de médecins. Et en même temps, c'est intéressant parce que, si vous voulez, trois générations plus haut, c'était une famille de médecins. Une famille de médecins de province, à l'époque, c'était en quelque sorte le Graal, quoi, je peux pas vous dire.
Ouais.
Et aujourd'hui, un médecin de province, personne ne veut être médecin de province, quoi, vous voyez. Donc, c'est un déclassement qui est aussi relatif. C'est comment certains métiers ont perdu de la valeur, comment certaines familles ont perdu du capital, comment d'autres se sont enrichis. Et le patrimoine physique, lui, il est en quelque sorte... Il a pris de la valeur à chaque fois. Donc, des gens qui possédaient des choses, aujourd'hui, sont amenés à les vendre pour pouvoir... maintenir une certaine forme de mode de vie.
Et pourquoi vous avez voulu écrire ce livre maintenant ? Il y avait une raison profonde ou c'est un sujet qui vous taraudait depuis des années ?
Non, alors c'est un sujet qui m'intéressait depuis des années. Vous pourriez en parler à mon éditeur parce qu'il a été très, très, très patient. Parce que quand j'ai sorti donc Parlez-moi encore de lui en 2017, très peu de temps après, j'ai signé ce livre, je pense la même année. Il est sorti en mai 2017 et en septembre, je pense que je signais ce contrat. À l'époque, il s'appelait Les Déclassés d'ailleurs.
Ah, d'accord.
Et non nue propriété, donc c'était le titre de travail. Donc d'accord. J'avais cette idée-là de déclassement déjà. Donc okay. On est en 2023, ouais, il est sorti en 2022, je l'ai signé en 2017. Vous voyez, ça prend du temps les choses. Et donc Les Déclassés, et donc j'avais envie de parler de ce sujet-là, parce que je sentais que c'était quelque chose qui, dans évidemment certains milieux, était une notion assez prégnante, en fait. C'était une crainte de ne pas faire aussi bien, de ne pas vivre aussi bien que de là où on vient. Et je trouvais aussi que ça m'intéressait. Moi, j'aime énormément des auteurs comme Annie Ernaux, Didier Ribon. Récemment, j'ai lu Gérald Bronner, qui a écrit un livre qui s'appelle Les Origines. Ces histoires me passionnent. Je trouve que, en plus, voilà, ce sont des gens qui écrivent très bien. C'est de la Annie Ernaux, c'est de la littérature. Ouais. Didier Ribon aussi, quand il fait Retour à Reims, d'une certaine façon. Je lis beaucoup de choses qui me passionnent sur des trajectoires ascendantes. Et je me dis, pourquoi, au fond, il n'y a pas de trajectoire descendante ? Pourquoi on ne raconte pas ça ? Ouais. C'est très rare, en fait.
C'est vrai.
En littérature, ça n'existe pas quasiment.
Mais tout comme l'échec, on n'en parle pas non plus dans le métier.
Oui, et encore maintenant, aujourd'hui, l'échec, si vous voulez, c'est devenu presque la notion, l'échec...
À l'américaine.
Ouais, à l'américaine, quoi. L'échec, il faut avoir échoué pour rebondir, ouais. Etc. Genre, l'échec est une chance, voilà. Donc, les vertus de l'échec, comme dirait Charles Pépin.
Ouais.
Mais... Et finalement, les trajectoires descendantes, on n'en parle pas. Pourquoi ? Bah parce qu'en réalité, le fait d'être bien né et de ne pas avoir réussi à maintenir c'est considéré comme un drame. Enfin, je veux dire, on n'a pas du tout envie d'écouter ces histoires, mais non, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai envie de connaître ces histoires.
C'est important de les connaître.
Il y a des gens qui les vivent et qui ressentent de la culpabilité. Vous savez, Annie Ernaux, elle parle de la honte. Elle parle de la honte d'une certaine façon, mais il y a des gens qui vivent ces trajectoires descendantes et qui ressentent de la culpabilité, de la honte, une forme d'inaccomplissement ou une forme de devoir à essayer de faire aussi bien, etc. Et je me suis dit, en fait, il faut des histoires comme ça aussi. Elles existent et la littérature doit être un endroit où on raconte ça aussi.
C'est passionnant. Non mais c'est vrai. Et je me demande si j'aurais pas plus aimé l'ancien titre que le. Enfin en tout cas.
C'est pas ah oui que mais alors pas attendez non, mais les déclasser justement parce que justement on est dans ma.
Ah, dans votre bibliothèque. Oui,
dans ma bibliothèque.
Je tiens à signaler qu'on est chez vous et que c'est absolument génial.
Mais voilà. Justement les déclasser figurez-vous que je vais vous le montrer puisqu'on est c'est l'avantage.
De stocker.
De stocker et de voilà il est c'était un titre qui était. Déjà utilisé par Jean-François Bizot.
Chez Grasset.
Chez Grasset, d'accord. Qui a écrit ce livre qui s'appelle Les Déclassés. Je ne le savais pas. Et surtout, en fait, Nue propriété s'est imposée.
Oui, par la,
s'est imposée
la notion juridique.
Au moment de l'écriture. Parce qu'en réalité, souvent, on écrit un titre de travail et puis à la toute fin, enfin, moi, c'est toujours comme ça, à la dernière minute, et je sais que je ne suis pas la seule. J'ai encore reçu un programme de maison d'édition aujourd'hui. J'ai vu que le titre avait évolué par rapport à la semaine dernière, juste avant la sortie d'un livre. Et en fait, de temps en temps, il y a un truc qui s'impose et vous dites « Ah non, mais c'est ça, en fait. Mm-hmm. » Et moi, c'était Nue propriété, c'était
mais surtout,
exactement ça,
parle, ça
qui me fallait.
On est tout nu et on n'a plus exactement. De propriété. Et on n'a plus de propriété.
Et puis, ce livre, c'était une forme de mise à nu. Donc,
Ouais. Mais c'est passionnant. Franchement, c'est passionnant ce que vous dites sur le déclassement et sur les récits autour de ça. Puisque je l'observe beaucoup dans une forme de honte, de non-dit, Et je viens de faire un podcast avec une jeune femme qui est hypnothérapeute et thérapeute, et on parle du transgénérationnel et des loyautés qu'on peut avoir à l'égard de nos ascendants. Et c'est vrai que souvent, quand bien même ça se répercute peut-être pas matériellement sur la première génération, ça se répercute dans l'éducation, dans les valeurs, dans tout un tas de choses qui sont peut-être trop lourdes à porter. Mais c'est passionnant. C'est passionnant ce que vous dites. Je ne l'avais pas vu sous cet axe-là, mais c'est passionnant. Et effectivement, il n'y en a peut-être pas assez parce que ce n'est pas glorieux.
Voilà. Exactement. Ouais. Ce n'est pas glorieux.
Ouais. Et c'est dommage parce que je pense que tant qu'on n'a pas levé le voile là-dessus, on ne peut pas résoudre aussi des problèmes de famille. Mais. Non, mais du coup, je suis un peu. Moi, quand je reste bloquée sur un thème, j'ai du mal
mais
à aller sur un autre.
Continuer.
Non, mais c'est simplement que je pense que c'est effectivement un roman, moi, qui m'a beaucoup interpellée, puisque justement, ça englobe tellement de choses. La mort englobe tellement de choses et fait remonter à la surface tellement de choses que c'est. En tout cas, moi, ça m'a troublée à ce moment-là, personnellement, de ma vie. Et que ce sont des termes. La nue propriété, le démembrement de propriété, la pleine propriété, toutes ces choses-là, c'est des termes qu'on aurait plutôt jamais voulu évoquer et puis on se retrouve le nez dedans. Ouais. En tout cas, j'appelle tout le monde à le lire, indépendamment du fait que ça se passe à Saint-Tropez et que j'ai une
ça
affinité.
Ça aurait pu se passer n'importe
où. Exactement. Mmh. Et qu'effectivement, je pense que si vous n'aviez pas donné le don de ce petit village que vous comme moi on a vécu très différemment de ce que ça en est devenu, bah voilà, je pense que ça aurait pu, enfin ça parle à beaucoup de monde, indépendamment du fait que ce soit Saint-Tropez, quoi. Je pense qu'il faut passer outre.
Oui,
si on a
sûr,
une image un peu bling du truc, il faut passer outre et que c'est effectivement la maison d'enfance.
Oui, d'ailleurs, des gens m'ont écrit en me disant qu'ils s'étaient retrouvés complètement dans cette histoire, que c'était pas dans cet endroit, ouais. Que c'était ailleurs, même
c'est
dans
ça.
Le Poitou.
C'est ça.
Voilà, c'est finalement ces endroits qui sont nos... les lieux de nos souvenirs.
Exactement. Mais Lisa, en fait, il y avait tellement de sujets pour lesquels je voulais vous rencontrer. On a échangé il n'y a finalement pas si longtemps que ça. Et puis, en préparant notre interview, notre échange, je me suis rendu compte que vous lanciez un podcast qui s'appelle Bold.
Bold Voices.
Alors, V-O-I-C-E-S, pour les voix en anglais. Bold pour audacieuse, j'adore ce mot, je le trouve magnifique, bold. Et vous le faites pour, enfin, on peut le dire, c'est
oui,
Veuve
avec
Clicquot.
Veuve Clicquot.
C'est Veuve Clicquot qui a impulsé cette superbe idée qui consiste à parler de l'audace avec des femmes. Mm-hmm. Donc vous en avez un tout petit peu parlé avant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Donc il y a deux épisodes en ligne déjà disponibles sur toutes les plateformes qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas.
Oui,
le premier, je pense,
il y en a même trois.
Avec... Ah, il y en a trois maintenant en ligne, ok.
Le premier épisode, c'est avec Céline Lazorte,
ouais.
Qui est la fondatrice et créatrice de Litchi et Mangopé.
Ouais.
Et
Litchi, la cagnotte que tout le monde a déjà utilisée.
Oui, voilà, exactement. Qui a changé nos vies, en quelque sorte.
Et dans relation
et beaucoup
amicale.
La sienne, justement. Ouais. Et le deuxième épisode, c'est Nathalie Bala, qui a dirigé et présidé La Redoute. Et le troisième épisode, c'est...
Qui a repris La Redoute.
Ouais.
Ouais.
Véronique Morali,
ouais.
De Webedia,
ouais.
Qui a eu une carrière... très variée, qui était inspectrice des finances, qui est passée par Chanel, qui dirige aujourd'hui Webedia. Et en fait, ce podcast, donc, sont des entretiens avec des femmes qui ont toutes reçu le Bold Woman Award remis par la maison Veuve Clicquot, et depuis 1972, parce qu'en fait, Veuve Clicquot... remet un prix aux femmes depuis 1972.
Personne ne le savait.
Quand je l'ai découvert, j'étais un peu scotchée, je dois dire. C'est assez troublant. C'est à ce stade, c'est pas du woman washing. Et donc, l'idée, c'est de raconter ces parcours de femmes, souvent entrepreneurs. À l'époque, ça s'appelait le prix de la femme d'affaires, à un moment, avant de s'appeler le Bold Woman Award. C'est des, voilà, ce sont des femmes d'affaires, des créatrices, des fondatrices, des chefs d'entreprise dans le milieu de la culture, du web. Il y a même un épisode avec une ancienne agente de la DGSE qui a créé une société dans le monde de la cybersécurité. Un épisode avec une éditrice, ancienne ministre de la culture, que vous reconnaîtrez. Un épisode avec Sarah Poniatowski, qui a créé sa maison, de Maison Sarah Lavoine. Et donc, à chaque fois, l'idée, c'est de parler de ces parcours-là. Moi, je ne suis pas spécialiste de la tech, vous l'avez compris. Je ne suis pas non plus journaliste économique, spécialiste du business. Mais ce qui m'intéresse, sont les parcours, les trajectoires. Et donc, j'avais envie de parler de ça à travers, par un prisme peut-être plus intime, plus personnel. Et donc, ce sont
c'est très réussi.
Des émissions, enfin des entretiens de entre 30 et 40 minutes à chaque fois. Et c'est chaque semaine, le mardi.
J'ai écouté et j'ai beaucoup apprécié. Vraiment.
Merci, c'est gentil.
J'ai découvert Résilience, une société qu'a cofondée
Céline Lazorte.
Qui est autour du cancer, enfin de la prise en main du cancer. Et
Ce garçon dont vous connaissez mieux le nom que moi.
Jonathan Benabou. Et effectivement, merci pour la découverte parce que, en tout cas, c'était un échange passionnant. Et honnêtement, je vous parle en toute franchise, on voit la différence quand on a affaire à une journaliste.
Voilà. Ah bon ?
Bah oui.
Bah tant mieux.
Bah parce que j'écoute beaucoup de podcasts et c'est vrai que...
Donc je vais pouvoir redemander ma carte de presse l'année prochaine, c'est ça,
mais je dis juste que dans le secteur du podcast, c'est quand même un secteur dans lequel il y a tout... Enfin, tout le monde peut monter
infini,
un podcast.
Oui,
voilà, c'est infini. Et je tiens quand même à signaler que le travail paye, c'est-à-dire que l'expérience paye quand même. Et qu'une interview menée par une journaliste fait quand même une différence. Je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Et voilà, et c'est très agréable que je pense qu'on n'en a jamais assez d'entendre des parcours féminins et que c'est super d'apporter votre pierre à l'édifice. Mais maintenant, c'est à mon tour de vous demander en quoi vous avez été audacieuse dans votre vie.
Ah là là.
Enfin, je suppose que vous l'avez été à plusieurs reprises, mais
difficile.
Est-ce que vous avez un souvenir où vous vous êtes dit, j'ai osé.
Alors, c'est très bizarre que vous me posiez la question aujourd'hui, cette année. Je vais vous répondre en deux temps. D'abord, il y a des moments où on est audacieux et on ne s'en rend pas compte. Moi, par exemple, je crois que fondamentalement, mais je ne sais pas si c'est de l'audace, mais en fait, j'ai suivi ma voie. Je m'explique. Je suis née dans le sud de la France, d'une famille pas d'écrivain, etc. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Et je ne me suis jamais vraiment posé de questions, justement, on parlait des origines et tout ça. Je ne me suis jamais demandé, est-ce que c'est possible pour moi ? Est-ce que on a besoin de venir de cet endroit-là pour y arriver ? Est-ce que j'ai le réseau, etc. En fait, d'une certaine façon...
C'était naturel.
C'était une sorte de naïveté, peut-être, je dirais. Où je ne me suis pas empêchée d'y croire, de faire et j'y suis allée, sans me dire c'est finalement un lieu de dépotisme, de reproduction, ça, je dirais que c'est peut-être l'audace fondamentale, si tant est que c'est de l'audace. Et sinon, là, pour l'année dernière, par exemple, si je regarde 2022, je me rends compte que à chaque fois, que j'ai fait plusieurs choses. J'ai publié ce livre Nue Propriété, qui était un livre très inspiré de ma propre vie, sans me rendre compte à quel point c'était quand même quelque chose, parce que chaque fois que vous en parlez, vous avez l'impression de parler de vous, et en fait, parler de soi, parfois, c'est un peu saoulant. enfin un peu dur. Ça demande plus d'énergie que quand on parle de d'autres personnes. En ça, je dirais que c'est, je sais pas si c'était audacieux, mais peut-être courageux. Ce que je raconte, faire un récit comme ça, comme je vous le disais, qui n'était pas très politiquement correct. Ensuite, j'ai réalisé mon premier documentaire sans réaliser, au sens, sans comprendre, sans percevoir ce que j'étais en train de faire. Tout d'un coup, on m'a dit, mais non, mais bien sûr, on va faire un documentaire sur... C'est une chaîne Public Sénat qui m'a dit, on va faire un documentaire sur le film. J'ai dit, ah super, ben moi j'ai des noms de chefs opérateurs, de réalisateurs top, je vous les ai préparés, etc. Et ils m'ont dit, ah non, non, mais c'est vous qui allez le faire, en fait. Et je dis, mais moi, j'ai jamais fait de réalisation. Donc, et donc, là aussi, bah, j'ai fait mon film. Et en réalité, je dois dire, et plus récemment, en décembre dernier, je me suis retrouvée devant une salle à l'Olympia, sans réaliser qu'il y avait plus de 1200 personnes. Je dois dire que moi, mes moments d'audace ne sont pas anticipés, préparés. Je crois que je suis audacieuse au pied du mur. Non, mais sans le
vouloir,
sans m'en rendre compte sur le moment, en fait.
Ouais.
Après coup, je me dis, mais c'était de la folie, en fait, de faire ça. Mais je sais pas, alors peut-être que... Plus on avance dans la vie, plus on se dit maintenant, maintenant je sais, et donc on est un peu tétanisé. Mais pour l'instant, j'ai eu l'impression de ne pas réaliser que j'étais.
Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. On parlait de trajectoire, mais effectivement, dans ce cas-là, c'est que l'audace est une manière inconsciente de se remettre sur sa voie.
Peut-être. Ou l'audace est une forme de... Peut-être de pas trop se poser de questions. Peut-être juste une forme de... Et de moi, pourtant, je suis quelqu'un qui se pose beaucoup trop de questions. Mais il y a des... Quand il s'agit de faire dans mon travail,
dans l'action,
en réalité, je fais.
Ouais.
Après, j'ai 200 000 sujets sur lesquels je me prends la tête, il n'y a aucun problème. Mais quand il s'agit de ma vie professionnelle, je fais, j'avance, et après, je me dis... Ah ouais, quand même, c'était un peu osé. Mais c'est trop tard, je l'ai fait.
Mais ça vient de vos parents ? Vous pensez que c'est quelque chose, c'est une espèce de... Parce que c'est pas acquis chez tout le monde, ça. Hein. C'est quand même une force certainement naturelle, mais c'est pas acquis. Est-ce que ça vient pas du fait que... Je veux pas comprendre trop dans l'intime, mais est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir été accompagnée durant votre jeunesse ? Est-ce que... On vous a dit, mais non, tu peux pas être journaliste.
Ah non, jamais.
Voilà, vous avez été plutôt...
On m'a jamais dit ça. On m'a jamais dit, tu peux pas.
On vous a jamais dit.
En fait, non. Mais c'est marrant parce que je me rends compte, à la fois, bien sûr, je pense que ça vient de mes parents qui m'ont donné...
Confiance
en moi d'une certaine façon, bien sûr. Qui m'ont accompagnée, qui m'ont donné les moyens d'eux.
Ouais.
Mais au fond, je me rends compte en interviewant les gens que de temps en temps, eux, on leur a dit, oui, tu peux le faire, etc. Moi, tout s'est fait... Je sais pas comment dire, ça s'est fait passer, ça s'est passé naturellement. Mes parents m'ont toujours accompagnée, entraînée, aidée, poussée, mais pas, ils m'ont pas dit oui, il faut que tu le fasses, oui, tu vas réussir, oui, machin. En quelque sorte, naturellement, je dirais organiquement, ils m'ont fait comprendre, sans forcément le formuler, que je pouvais.
C'est ça. D'accord. Oui, j'ai compris. Sans vous dire oui ou non.
Ça doit être une
ou...
manière de donner confiance en soi à ses enfants. Ouais. Ils m'ont juste, ils m'ont pas dit, mais bien sûr, voilà. Ils m'ont suivi.
Ils ont su vous écouter.
Ouais.
Et du coup, un échec, enfin, est-ce que vous avez le sentiment, je déteste cette question, mais je suis en même temps obligée la poser. Non, mais je ne crois pas à l'échec. Je crois aux essais. Mais en tout cas, est-ce que vous avez quand même... excusez-moi, on enregistre, je suis sur la fin d'un rhume, c'est très désagréable. Je ne suis pas du tout contagieuse, mais c'est un peu désagréable. Non, est-ce que vous avez eu le sentiment à un moment d'avoir touché le fond ?
Touché le fond ?
Ouais.
C'est-à-dire ?
Touché le fond, c'est est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir eu une sorte de revers de situation terrible, dont vous n'alliez pas vous relever ? Enfin, voilà, quand on dit toucher le fond, c'est une période où ça peut être un échec, ça peut être un moment de doute profond, ça peut être un moment de... ouais, c'est ça, en fait. Quand je dis toucher le fond, c'est très relatif, attention. Hein, c'est pas forcément les méandres noirs et difficiles, mais voilà, un truc où vous vous êtes dit, waouh, là, j'ai pris un truc dans la figure, faut que je me relève, faut que je fasse quelque chose. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Hein.
Non, 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 je pense que c'est difficile comme question.
Non, mais c'est parce que j'aime bien connaître les ressorts. Enfin, je trouve que vu que le podcast est écouté beaucoup par des gens qui sont en changement, enfin, des gens qui se posent des questions. Je sais que je commence à connaître un peu les gens qui écoutent des podcasts. D'accord. Et je commence à capter le fait que ce soit généralement des gens qui se posent des questions. De fond, c'est des questions existentielles, c'est des questions de carrière, c'est des questions métaphysiques, des questions économiques. Mais en tout cas, c'est des gens qui se remettent en question, on va dire ça comme ça. Et c'est pour ça que je suis toujours intéressée, sans pour autant vous demander... Enfin, je ne vais pas vous demander de parler de choses dont vous n'avez pas envie de parler, mais le sujet, c'est le ressort, en fait, c'est le rebond. Et je trouve que ce qui est intéressant chez les gens aujourd'hui, et tout à l'heure, vous parliez du fait que il faut des récits qui ne soient pas glorieux, mais je trouve que c'est aussi intéressant de savoir comment les gens rebondissent. Voilà.
Oui, alors moi, je dois dire qu'à un moment donné, quand j'ai quitté Marianne et que je suis devenue indépendante, je me suis dit, j'ai eu le vertige. Je me suis dit, waouh, est-ce que ce n'est pas trop risqué? Et en même temps, comme je vous disais, comme je suis assez pied du mur, je pense que la même semaine, j'avais eu une idée que j'ai envoyée à M, le magazine du Monde. Et c'était tout de suite la première idée et la bonne idée. Et ça a commencé, ma collaboration avec eux a commencé comme ça. Je connaissais pas la personne à qui j'ai envoyé le mail. J'y suis allée comme ça. J'avais bossé mon truc. J'avais une idée qui était venue comme ça un jour en courant.
Oui, parce que vous courez, il faut le signaler quand même. Vous courez beaucoup.
Il faut le signaler.
Bah oui, parce que c'est un mindset, non ?
Ouais. Alors j'ai. Mais justement, à propos de ça, je vais vous dire quelque chose qui. Je dirais que la seule fois, non, évidemment, dans ma vie, j'ai perdu des aides de ma famille, ça a été des moments difficiles, etc., bien sûr, comme tout le monde, ça, c'est des moments difficiles. Après, je pense qu'une fois dans ma vie, j'ai cru que j'allais mourir d'un chagrin d'amour. et en réalité, je me suis dit, voilà, je n'arriverai pas. À rebondir. Et alors, ce podcast dévie largement. Hein, cet épisode dévie vraiment beaucoup, je trouve, si je peux me permettre. Mais il faut dire aux gens, voilà, vous qui êtes en train d'écouter ce podcast dans votre canapé en vous disant, mais j'arriverai jamais, mais je pourrais pas aimer quelqu'un comme ça. Mais est-ce que c'est pas trop tard? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai perdu du temps. Etc. Mais en fait, mais non, pas du tout. Et moi, ça m'est arrivé. Je me suis gâchée des moments. Je me suis gâchée des moments avec des gens que j'aimais. Je me suis mise en retrait de moments hyper sympas. Je me suis empêtrée dans une relation amoureuse qui ne marchait pas, etc. Mais en fait... En fait, on s'en sort, quoi.
On s'en sort.
Alors, j'ai l'impression d'être vraiment hyper.
Alors pas du tout, parce que je pense qu'au contraire, c'est très important de parler de sentiments.
Ouais.
Parce que finalement, c'est quand même le. Et puis un jour,
vous vous réveillez.
Et puis c'est passé.
Et puis vous vous dites, et alors un jour encore plus loin, et ça c'est peut-être encore mieux. Vous vous réveillez et vous dites. Ah mais c'est ça une histoire d'amour. Ah mais j'avais pas compris du tout en fait. Parce que moi je croyais que mon truc pourri là, c'était ça. Mais pas du tout, ça peut être comme ça aussi. Ouais. Et alors celui-là, je vous le souhaite vraiment beaucoup.
Ouais. Bah merci pour cette ouverture. Merci parce que je sais que c'est pas forcément évident. Mais en tout cas, je pense que c'est... Mais c'est des leçons. Enfin encore une fois, c'est... on peut le transposer sur
on peut le transposer à plein de trucs, c'est en gros c'est ne pas rester le nez collé à la feuille là et d'essayer d'un tout petit peu aller prendre l'air et aller courir et aller aussi faire, moi, ce qui m'a bien, bien aidé justement dans ces moments de rupture amoureuse, c'était je fais du vélo en salle, ah. Du vélo à haute fréquence.
Ah oui, je vois.
Donc, je ne sais pas si on peut citer une enseigne qui fait ça, mais je fais du vélo chez Dynamo.
Ouais.
Et en fait, vous êtes dans une salle noire avec plein de gens à côté de vous.
Personne ne se voit.
Personne ne se voit, personne ne se regarde. Et de toute façon, tout le monde s'en fout parce que vous êtes hyper concentré et vous n'avez pas le temps en fait, de regarder votre voisine pour savoir si son truc Lululemon, il lui va mieux à elle qu'à vous. Parce que vous êtes à fond. En fait, il faut pédaler à fond, taper dans ses mains, baisser les bras sur le guidon, etc.
C'est
machin.
Épuisant.
Il y a quelqu'un qui vous parle avec un petit micro qui est sur une estrade, qui vous parle et qui vous dit « Oui, vas-y, tu vas voir. » Et tu as l'impression que tu dis « Mais c'est pas possible. En fait, moi, j'ai trop de recul pour vivre un truc pareil. » La fille qui est en train de me dire « Si tu vas au bout de ce cours, tu vas aller au bout de tous tes objectifs. » Et tout. Et à un moment donné, vous pédalez, il y a la musique à fond. Et puis vous vous dites… Et là, vous entendez toute la salle et vous-même, et vous surprenez à crier en même temps que tout le monde. Et là, ça vous fait un bien.
Ouais.
Et moi, j'ai une de mes amies qui a divorcé, qui a eu un divorce très, très dur, et qui était quelqu'un d'hyper... qui se plaignait jamais.
Zen.
Non, pas zen.
Introvertie.
Hyper dans le contrôle.
Ouais.
Toujours nickel. Elle vivait un truc hyper dur. Toujours nickel. Toujours à jamais se confier, jamais se plaindre, etc. Et un jour, je lui dis, mais comment tu fais ? Elle me dit, mais je pleure sur mon vélo. Et donc, dans ce moment-là de salle intense, elle pleurait sur son vélo comme ça. Et c'est vrai que de temps en temps, au lieu de rester le nez sur la feuille, comme je disais tout à l'heure, il faut aller
se dépenser
faire des choses. Et je crois quand même vachement à cette histoire de corps, quoi, si
bien
on
sûr.
Peut.
Ouais.
Bah, ça fait du bien. Moi, je cours, je vais faire du dynamo là, à côté de chez moi. Et de temps en temps, ça aide.
Magnifique. Lisa, je ne vais pas vous prendre encore beaucoup de temps parce que je me rends compte que l'heure tourne. Je pose toujours les mêmes questions en fin d'interview à mes invités. C'est un coup de cœur récent et un coup de gueule. Un coup de cœur, ça peut être... un livre, ça peut être le vôtre. Hein.
Non, quand même pas.
Non, mais ça peut être un livre, une pièce de théâtre. Je sais que vous lisez beaucoup. Ça peut être une rencontre, ça peut être un voyage, ça peut être un moment, peu importe. Mais c'est un coup de cœur. Vous pouvez prendre le temps de la réflexion, il n'y a pas de problème. Et un coup de gueule ensuite. Ou d'abord l'un ou après l'autre, comme vous voulez. Et puis parfois, il y a des gens qui disent... les deux en même temps. Ou qui n'en ont pas d'ailleurs.
Alors, un
vous
coup
de cœur,
oui, un coup de cœur récent. Non, ce que je trouve le plus difficile comme question, c'est quand on vous dit quel est votre livre préféré, quel est votre film préféré.
Non,
ça, je trouve ça très dur parce que, en fait,
non,
sur
un
toute une
récent.
Vie, c'est impossible.
Ouais, c'est pour ça que je dis récent.
Mais un coup de cœur récent, un livre que j'ai lu là, parce que j'ai co-créé avec une de mes amies qui s'appelle Vanessa Trigano, un prix littéraire à La Ponche, à Saint-Tropez, justement, qui s'appelle le prix littéraire de La Ponche, à l'hôtel de La Ponche. Ouais.
Ça
mais je vous réserve des surprises, moi aussi, en fin d'émission, vous voyez, il n'y a pas que vos questions. Et donc, j'ai créé un prix littéraire l'année dernière, qu'on a remis l'année dernière à une écrivaine que j'aime énormément, qui s'appelle Nathalie Azoulay, qui a écrit un livre qui s'appelle La Fille Parfaite, qui en avait écrit d'autres, Titus n'aimait pas Bérénice, etc., enfin, qui est très, très forte. Et pour ce prix, on lit beaucoup de livres. Évidemment, c'est un prix qu'on remet en mai chaque année. Et là, j'ai lu un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle L'allègement des vernis de Paul Saint-Brice. Et c'est l'histoire d'Aurélien qui est directeur du département des peintures du Louvre.
Et j'ai entendu parler. Il est passé à la télé d'ailleurs.
Ah oui ?
Oui, j'ai vu une
émission. Et c'est
lui.
Hyper bien parce que donc c'est un personnage très attachant, un peu nonchalant comme ça, etc. Et puis il a une présidente du Louvre ou directrice du Louvre qui, tout d'un coup, le Louvre se pose des questions sur la fréquentation, comment il pourrait augmenter la fréquentation du musée. Et donc, il y a, vous savez, ces boîtes de com' qui viennent et qui pitchent des projets pour... donc, il y a faire en sorte que les gens se déplacent en Segway à l'intérieur du musée. Et il y a notamment la restauration de la Joconde. Et donc, en fait, c'est comment, en étant dans un monde d'images comme le nôtre, on propose des choses comme ça, parce que tout d'un coup, restaurer la Joconde, enfin, je veux dire, c'est s'attaquer à un monument. Et donc, lui, son métier, c'est quand même de faire attention aux œuvres. Et donc, il se retrouve dans cette espèce d'épisode qui est caractéristique de son époque, absurde. Et c'est vachement bien. C'est un premier roman, c'est vachement bien écrit, c'est publié chez Philippe Ray. Et donc, un coup de gueule, bah, j'en ai pas, je peux donner un deuxième coup de cœur ?
Oui, bien sûr.
mon deuxième coup de cœur, c'est une pièce de théâtre que j'ai vue au Théâtre de la Colline en décembre. Et j'en parle parce que c'est pas possible que cette pièce ne tourne pas en France ou ne soit pas rejouée à Paris, parce que là, elle est terminée pour l'instant. C'est une pièce de théâtre de Wajdi Mouawad, qui est un auteur néo-liban, qui est l'homme qui a écrit Incendie, qui est devenu un film, qui dirige le Théâtre de la Colline aujourd'hui, qui est dramaturge, qui a mis en scène beaucoup de pièces de théâtre. Tous des oiseaux, mère, sœur, etc. Il a fait un cycle qu'il appelle un cycle domestique, je crois, avec autour de sa famille. Et dans cette dernière pièce qui s'appelle Racine carrée du verbe être, c'est une pièce qui dure plus de 5 heures, donc ça peut paraître fou. J'y suis allée seule parce que c'était le seul moment où je pouvais y aller. Et c'était
pour ça qu'elle tourne pas, parce que 5 heures, il faut.
Bah,
y aller.
Écoutez, c'était complet. C'était à guichet fermé tout le temps, les gens faisaient la queue pour la liste d'attente tous les jours où ça jouait, ça s'appelle Racine carrée du verbe être, et c'est en gros Wajdi Mouawad a quitté le Liban au moment de la guerre civile avec ses parents quand il avait 7 ans, ils ont pris un avion d'abord pour la France puis l'Italie, etc. Et en fait, le point de départ de cette pièce, c'est il imagine dans une sorte double un peu fictif toutes les vies qu'il aurait pu avoir si une petite chose avait été différente. Si au lieu de partir prendre un vol pour telle ville ou telle autre, il était allé ailleurs, si sa famille avait décidé de rester au Liban, etc. Et en fait, c'est toute la possibilité de nos êtres comme ça. Et c'est exceptionnel. C'est vraiment avec une troupe de comédiens qui est dingue. Vous vous rendez pas compte, c'est divisé. Il y a deux entractes et vous voyez rien passer. Enfin,
c'est vrai.
Ah ouais, c'est magnifique. Vraiment, c'est mon coup de cœur de théâtre de l'année dernière.
Magnifique. Merci beaucoup.
Voilà.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Lisa, ou est-ce qu'on se quitte comme ça ?
Non, je crois qu'on se quitte comme ça.
Merci, Lisa.
Merci.
À bientôt. Au revoir.
Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel, et à très vite pour un prochain épisode.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.